Sophie Mallet.
Bonjour, dans la danse des mots d'aujourd'hui, on va parler de Thérèse. Thérèse, non pas une seule Thérèse, mais de nombreuses Thérèse. Thérèse en mille morceaux, c'est le nom d'un récit, d'un roman même, de Lionel Trouillot, qu'il a fait éditer il y a presque 10 ans maintenant, puisque je crois que ça date de l'année 2000, aux éditions Actes Sud. Et ce récit a été adapté à la scène par Pascal Henry. On peut le voir à Paris, au Théâtre de l'Est parisien, à partir de demain et jusqu'au 24 octobre. Et puis on le reverra dans diverses villes françaises lors d'une tournée qui ira, j'imagine, jusqu'à la fin de l'année 2009 à peu près. Pascal Henry, qui a réalisé cette adaptation, est avec nous aujourd'hui et je l'en remercie. Pascal Henry, bonjour.
Bonjour.
C'est vous donc qui avez adapté ce texte de Thérèse en mille morceaux. Je me demandais comment présenter ça en musique. Vous savez, on parle de transcription. On parle de transcription quand, par exemple, à partir d'une symphonie, on fait piano et violon, ou bien au contraire, à partir d'un duo, on fait un quintet, etc. Est-ce que vous parleriez d'une transcription pour le travail que vous avez effectué à partir de ce récit de Lionel Trouillot pour en faire un texte théâtral?
Oh oui, ça me va assez bien cette comparaison là, mais parce que c'est vrai que dans une transcription en musique, on respecte absolument la structure fondamentale de l'œuvre et c'est seulement qu'on l'entend. Enfin, c'est l'écoute finale qui. Mais enfin,
on change les voix, on change les timbres, voilà. Et on change pas la ligne et la direction,
et
quoi.
Et mais bien sûr que j'ai absolument suivi la structure et les articulations secrètes de ce texte. Enfin, qui, à mon sens, que j'ai essayé de regarder. Mais vraiment, comme en musique, c'est vrai.
Je vous dis ça parce que je trouve que c'est un texte très musical.
Oh oui,
je connais quand même assez bien. Enfin, j'ai lu un certain nombre de romans de Lionel Trouillot. Mmh. Celui-là est un de ceux que je trouve les plus réussis. Mmh. Et il sonne de façon très, très sensible.
Oui, c'est effectivement la langue, l'écriture même, elle est... d'abord, je trouve, c'est de la pensée charnelle, je ne sais pas comment vous dire. Ça pense par le corps. Et alors, c'est quelque chose pour moi qui permet le théâtre, c'est-à-dire que ce qui se prononce, on sent que ça vient par l'éprouver, par quelque chose qui est d'abord éprouvé. Et comme au théâtre, on cherche quand même la voix de l'auteur, enfin l'acteur même, il écoute au fond la fenêtre par laquelle regardait l'auteur, qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que c'est lui qui parle à un moment. Et la langue de Lionel est tellement... c'est vrai, elle est charnelle et elle est... comment dire, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est un écrivain à vision, je trouve. Moi, j'aime ça, c'est où il y a de l'au-delà à ce qui est dit. Il n'y a pas de phrase pour rien. Quand je dis de phrase pour rien, il n'y a jamais de phrase pour décrire quoi que ce soit, un mouvement. C'est toujours des phrases où à l'intérieur, il y a à la fois, je ne sais pas, de la politique, de la philosophie, de la poésie, partout. Dans à peu près tout. C'est ça que j'ai trouvé fantastique et qui, pour moi, permettait d'aller vers le théâtre.
Alors, je trouve ça très intéressant, Pascal Henry, que vous parliez de paroles charnelles. Parce qu'en effet, c'est très particulier. D'abord, je trouve que c'est un texte qui appelle la mise en théâtre, puisque au centre même du texte, il y a un personnage, le personnage de Thérèse, dont on dit dans le titre même du roman qu'il est en mille morceaux. Donc, c'est un personnage qui va se morceler, c'est un personnage qui va s'atomiser, qui va devenir multiple, et qui, en même temps, va nous parler de ses rapports avec d'autres personnages. Mmh. Thérèse, elle a un mari, elle a une sœur, elle a un beau-frère, elle a une mère, elle a un père qui est mort, et il y a une espèce de guérisseur un petit peu spirit qui va venir de temps en temps l'aider. Ça fait quand même une scène extrêmement remplie.
Oui.
Mais au départ, c'est un personnage qui se démultiplie. Oui. Est-ce que c'est ce premier mouvement qui vous a conduit à vous dire que, oui, en effet, ce texte pouvait être mis en théâtre?
Mais oui, parce que franchement, je crois que l'art théâtral, c'est... Enfin, oui, c'est vrai, c'est la possibilité de rendre visible l'invisible avec le jeu de la métaphore. C'est-à-dire qu'au théâtre, c'est comme les pages blanches des livres, mais là, c'est noir, c'est une cage noire où il n'y a rien. Puis on dirait qu'il y a un corps qui passe, et puis on regarde, on se met à lire ce mouvement, etc., etc. Donc, c'est bien quelque chose qu'on regarde qui est au-delà de ce qu'on regarde. Et alors, dans le travail de... dans ce texte de Lunel, c'est le théâtre à l'intérieur de Thérèse pour moi. C'est-à-dire, Thérèse, elle est le théâtre d'une sorte d'implosion où, effectivement, elle devient multiple, mais enfin, malgré tout, il nous raconte une chose qui est de dire que nous sommes plusieurs, comme alors... a dit Pirandello et tout un tas de d'auteurs, et que lui, il dit que l'oppression, c'est d'être rendu à un seul. Donc Thérèse, elle part d'une petite femme un peu bête, une femme sans rien, une femme qui n'est pas sujet, une de ces femmes bien écrabouillées. Et il dit qu'à l'intérieur d'elle, elle est beaucoup. Mais c'est-à-dire qu'il lui donne son caractère complexe. Mmh. Et c'est bien ça, devenir sujet.
Oui, et en même temps, il ne le fait pas dans la direction d'une épaisseur. Au lieu de lui donner une épaisseur, il lui donne... un feuilletage, d'une certaine
absolument.
Façon.
Absolument.
Ouais. Alors, pour qu'on comprenne mieux, justement, quel est le début de ce livre, tout à l'heure, vous proposiez, avant qu'on commence l'émission, d'en lire un extrait. Mm-hmm. Est-ce que vous ne voulez pas nous lire peut-être un extrait du tout début. Début
voilà, très le bien. Tout début. Qui est un morceau de la pièce. Hein, mais c'est le... Parce que j'ai brusquement pris conscience d'avoir été jusqu'à ce jour quelque chose comme un être là, une réalité totalement extérieure à sa propre existence, j'ai décidé d'écrire. Tout Thérèse n'a été qu'un vieux tas d'expressions du type mi-chaud, mi-froid, entre chien et loup, mi-figue, mi-raisin. Comme habitée par mille destinées incompatibles, je réalise qu'à mon insu, quelque chose éloignait ma main droite de ma main gauche, interdisant à mes élans le moindre geste à l'unisson, qu'il fût de joie ou de colère. Mes pas s'arrêtaient à chaque virage. Ma tête, mon corps, mes rêves, marchant comme un canard, chacun tirant mes ficelles dans des directions opposées. Thérèse, à jamais disloquée, a donc choisi d'écrire. De l'écriture, je ne sais pas grand-chose. Marionnette et marionnettiste, j'écris pour savoir de combien de Thérèse j'ai été le pantin. Ce désir de trouver ce qui en moi fait nœud, ce qui en moi fait route, ce que mes proches qualifient aujourd'hui d'obsession maladive, m'est venu comme une déroute avec des pertes de mémoire, des confusions d'époque et le partage des voix. Il paraît que je change de voix et de registre. Thérèse a baisé comme une chienne avec Joël et Alexandre, les jumeaux de Madame Garnier. C'est mon parler canaille. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Voilà Thérèse en mal d'enfance.
Pascal Henry, on comprend un peu mieux maintenant qui est cette Thérèse, ce personnage un peu falot donc, et qui décide d'écrire pour trouver son identité, pour savoir qui elle est. Non pas qui elle est une, mais qui elle est plusieurs, justement. Et de passer du mi-figue, mi-raisin, où elle n'existe pas, au mi-figue, où elle existe, et au mi-raisin, qui est en face. Alors, ce personnage atomisé, est-ce que vous lui avez donné un corps et une voix sur scène, ou plusieurs? Comment est-ce qu'il s'incarne, justement, dans votre adaptation?
Ah oui, alors voilà, ce que j'ai décidé de faire, parce qu'évidemment, comme il parle de ces plusieurs Thérèse, et malgré tout, il dit, il y a l'autre Thérèse, et c'est à la fois elle est multiple, mais elle parle tout le temps d'une autre Thérèse. Alors c'est l'autre qu'elle cherche, l'autre qu'elle doit devenir, l'autre... Bon. Alors, mais en fait, elles ne sont pas que deux. Elles sont vraiment beaucoup. Alors, j'ai confié...
Elles sont souvent deux, quand même. Parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, elles vont être mille, ou vraiment, en tout cas, une grande multiplicité. Et de façon très obsédante dans le roman, revient cette idée de l'autre Thérèse.
C'est-à-dire qu'il y a l'autre Thérèse qui lui parle. Moi, j'ai décrypté ça à... D'abord, dans un premier temps, avant même de trouver la chose théâtrale, je me suis dit, l'autre Thérèse, c'est celle du désir pour moi. C'est-à-dire, donc, c'est celle de l'enfance du désir, enfin, c'est cette instance-là pour moi. C'est-à-dire que c'est celle qui vit, c'est celle qui lui rappelle des choses qu'elle a oubliées, c'est celle qui ouvre les portes, c'est celle qui voulait vivre et qui s'est tue. Donc, moi, j'ai représenté cet appel de la vie par un personnage qu'on voit évoluer tout le long de la pièce. Il y a Thérèse, celle qui joue, on va dire, le rôle principal, mais au fond, les deux font ce rôle principal, mais de celle qui parle, de celle qui est, en souffrance aussi, méconnaissable, et qui joue donc plusieurs morceaux, et qui est terrorisée, quelquefois, par cette image de l'enfance, parce que ça lui rappelle des choses dont elle ne doit pas, ne peut pas, elle est en étrangeté même avec cette autre Thérèse. Et en même temps, elle a le désir de l'écouter.
Et en même temps, c'est cette première Thérèse, apparemment en tout cas, qui se met à écrire, c'est-à-dire qui va éditer, qui va réussir à construire cette identité. La légitimité de l'autre Thérèse, elle fait pas de doute. La légitimité du désir, le désir arrive et on se dit, bah oui, bien sûr, il n'avait pas de voix et maintenant il en a une et personne ne le met en doute. Ce qu'on peut mettre en doute, c'est la première Thérèse, justement, qui est falote parce qu'elle est toujours dans une espèce, dans un conformisme comme celui de sa sœur. Elle est toujours dans ce parler roide, à mi-donné, sans incartade ni divergence dont parle Lionel Trouillot. Et pourtant, c'est à partir d'elle que va se réaliser autre chose.
Et oui, mais parce qu'alors ça, c'est un. Il est très, très. Je trouve que Trouillot a une.
Il est retort, hein.
Intelligence de. Comment on pourrait dire, de la chose humaine. Si on la prend, on peut dire que c'est un texte qui est à la fois philosophique, psychanalytique, on peut y aller par tous les côtés. C'est ça, je crois, qui fait un grand écrivain.
C'est ça qui est bien aussi. Non. C'est ça qui en fait un écrivain, quoi.
Oui. Mais c'est vrai, la grande écriture, elle fait appel à beaucoup de choses en même temps. Et lui, je crois qu'il dit ça, enfin moi, ce que je partage sur la lecture de la chose, disons, c'est que ce qui est Thérèse, la Thérèse muette, la Thérèse sans incartade au palais roi des Amidonnés, c'est aussi la Thérèse qui est là parce qu'elle est aimée comme ça. C'est-à-dire que sa mère lui donne vie par là. Alors bien sûr que ça l'écrabouille, mais il y a aussi une partie d'elle qui n'a que le choix de s'incarner là, puisqu'il n'y a pas d'autre route. Mais qu'il y a quelque chose dans l'enfance de Thérèse, et moi je l'ai représenté au théâtre, avec cette histoire, elle a juste le droit de jouer à la corde sur le pas de la porte, mais pas de s'éloigner. Et moi j'ai juste fait une chose, c'est que Thérèse, elle oublie tout le temps ses chaussures. Elle marche pieds nus tout le temps. Elle oublie tout le temps de mettre ses chaussures. Comme si elle avait les pieds qui cherchait un autre...
Thérèse au pied léger, voilà. Dit-il à plusieurs reprises.
Voilà.
Les donc, mille Thérèse au pied léger.
Voilà. Et donc, c'est vrai que la Thérèse écrasée, elle sent pas son pied qui lui fait mal. Puis un jour, elle le sent. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans l'idée de Lionel, c'est qu'il dit qu'elle sait pas pourquoi ce jour-là. Idée brusquement. Il n'y a pas de raison, ni politique, ni comme ça. Tout d'un coup, on prend conscience que quelque chose vient et ne supporte plus. Le corps ne supporte plus ça. Et elle devient folle pour ça. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas céder à l'autre Thérèse. Parce qu'elle va perdre dans sa tête. Elle perd l'amour de mère, elle perd la maison, elle perd tout. Elle perd ce qu'elle a signé, ce qu'elle a dit qu'elle ferait, ce qu'elle serait. L'amour de sa sœur, on s'incarne tous dans des histoires de famille et d'histoires politiques aussi.
Alors ce qui est étonnant également dans ce texte, c'est que en filigrane presque, il est situé et il est daté. Ça se passe à Haïti. Oui. Lionel Trouillot est haïtien. Oui. Il vit en Haïti.
Et oui.
Ça pourtant... se passe au début des années 60. On nous dit plusieurs fois, Thérèse est née en 37. Ouais. Alors, on ne sait pas, 1800, 1700, puis on comprend que c'est probablement 1937. Elle a 26 ans, on est en 1963. Elle représente une sorte de personnage un peu déclassé d'une bourgeoisie propriétaire terrienne qui a laissé les choses lui filer entre les doigts. Donc, c'est une pièce qui n'est pas du tout historique, mais où l'histoire a son poids.
Ah oui. Mais alors, bizarrement, quand j'ai lu le roman la première fois, moi, j'ai même pas tout à fait bien attrapé ni l'histoire de temps. Je trouve
c'est caché, l'entend. Mais c'est par derrière. Caché.
Mais c'est par derrière, oui, absolument. Et je crois qu'aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il parle pas... Il y a bien sûr un propos politique pour moi aussi dans ce roman. Et Lionel a parlé de l'idée qu'il a pris une petite bourgeoise. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas raconté l'écrasement depuis la misère d'en bas, là, de la rue, de Caniveau, etc. Il a dit la misère avec un toit. Où il y a un toit, où il y a de quoi faire et où on doit tenir ça. C'est un autre genre de misère. Mais aussi parce que son propos, c'était quand même de regarder ce que c'est que l'oppression d'un corps. Qu'est-ce que c'est que l'oppression ? Et pour ça, il a pris un corps de femme.
Et puis, alors que c'est un homme.
Alors que c'est un homme, ce qui est quand même assez rare, qu'il faut saluer là l'exercice d'écrivain. Mm-hmm. Et il m'a dit une très jolie phrase, il m'a dit « c'est le roman de ma disparition
Pascal Henry, revenons un petit peu à votre travail. Vous avez donc adapté ce roman. D'abord, quelle a été votre distance de travail avec Lionel Trouillot ? Vous avez travaillé tout le temps avec lui, vous l'avez beaucoup associé, il vous a laissé une grande liberté.
Totale liberté. C'est-à-dire qu'on s'est vu à Paris, je lui ai dit que j'avais le projet de faire ça, je lui ai demandé son autorisation. Il m'a dit, a priori, aucun problème, je ne suis pas un emmerdeur. Mais bon, quand on s'est rencontrés, j'ai quand même voulu lui dire un peu par où j'allais aller. Je crois qu'il a entendu que j'avais entendu quelque chose tout en dessous de ce qu'on disait tout à l'heure, des articulations, sur quoi j'avais... Par exemple, il y a dans ce roman une histoire extrêmement importante, moi, que j'ai entendue, la porte. Les fermetures, à quel point elles sont métaphoriques et symboliques.
On verrouille, et de temps en temps, on met même le fauteuil.
Et ça, pour moi, c'était extrêmement théâtral.
On met le fauteuil devant la porte pour que, justement, pour que rien, s'il y a des voleurs...
Toujours, on le met.
Même le jour où la mère meurt.
Mais toujours, le fauteuil fermé, les fenêtres fermées, rien de l'extérieur. Et moi, je me suis dit ça, je lui ai raconté sur quoi j'allais construire ça. Mm-hmm. Et je crois que là-dessus, après, il m'a dit, j'ai confiance.
Comment est-ce que, exactement, vous avez travaillé sur le texte ? Par exemple, qu'est-ce que vous avez gommé, enlevé ? Est-ce que vous avez rajouté des choses ? Est-ce que vous êtes passé de style direct à indirect ? Comment, techniquement, on passe d'un récit à un texte théâtral ?
Mais par exemple, j'ai d'abord... Regardez comment c'était structuré. Ce que je ne voulais pas casser, c'est que Lionel, il fait des allées-venues entre la Thérèse qui se calme, la Thérèse qui est en crise, qui ne sait même pas qu'elle a dit ça la veille, mais elle s'en rappelle, etc. Et dans le roman, c'est comme ça, haché. Chaque petit chapitre donne la hachure, le morcellement. Donc je me suis dit, il faut que je suive ça. Et en même temps, par exemple, j'ai enlevé, disons, tout ce qui était très littéraire, ce qui donnait des, ce qui peut faire pour le lecteur, ce qui pour le lecteur est quelque chose qui le conduit. Moi, j'ai dit, je vais le faire en théâtre. J'ai enlevé la partie que je pouvais faire en théâtre, c'est-à-dire que les images, les mouvements, le corps des acteurs allaient pouvoir rendre ce qui, dans la littérature, était là. Mmh. Donc, voilà ce que j'ai fait. Par exemple, je ne sais pas, une phrase pour un acteur, quand il dit « Thérèse joue à la frontière », bon, bah, dans le roman, ça ne commence pas par là. Ça commence par d'abord une description de Thérèse qui est petite, à l'école, etc. Mais moi, j'ai pris tout ce travail de description, je le fais sur scène, une image qui prend ça. C'est ça que j'ai essayé de faire. C'est de prendre la métaphore de la faire au théâtre. Tout ce qui...
Comment est-ce que vous avez travaillé le rythme du texte? Parce qu'il y a un rythme très particulier, les chapitres sont très courts, et ça fait un petit peu montage. Avec des envolées subites, courtes, et qui n'ont pas les mêmes débuts. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui change d'un chapitre à l'autre. Très souvent, ça commence par Thérèse. Thérèse a 17 ans, depuis deux jours et quelques heures. Bon. Le chapitre d'après, c'est « J'ai reçu ce matin la plus étrange des visiteuses ». C'est Absolument. Thérèse qui parle. La suite, c'est « Chers clients et amis, ne pouvant me présenter, etc., c'est une lettre du notaire ». Donc on a, sur ces trois chapitres que j'ai pris presque au hasard au milieu du livre, on a trois points de vue différents qui se succèdent.
Et
c'est
voilà.
Très présent, ça, dans la mise en espace.
C'est que, par exemple, moi, j'ai carrément fait des scènes entières où il y a trois chapitres à l'intérieur. Mais donc, par exemple, je vais prendre... Il y a une scène où Thérèse dit « Je crois que j'ai pas bien parlé à ma sœur, mais je suis pas sûre. J'aime ma sœur, j'aime ma mère. » Bon, je le dis mal, parce que c'est mieux dit que ça. Et dans la scène même, au moment où elle est en train de jouer ça, il y a quelque chose qui bascule en une seconde. Et c'est l'autre. La comédienne, elle joue l'autre. Et elle dit « Je te hais, Élise. »
Élise, c'est sa sœur.
C'est sa sœur. Oui. Et... C'est ça que fait que c'est ce que vous dites là, c'est-à-dire il y a Thérèse, le je, puis il y a l'autre Thérèse. Parfois l'autre Thérèse, on la reconnaît simplement à la façon dont elle parle, parce que je te hais, Élise, tu n'es qu'une pute, par exemple. Ça, c'est une langue que on n'imagine pas du tout dans Thérèse, et pourtant elle
Mais
dit
c'est
ça.
C'est la langue de l'autre Thérèse.
C'est la langue de l'autre Thérèse. Mais c'est comme quelque chose qui, une fois qu'on a compris. Qu'en fait, Lionel Trouillot fait état d'un morcellement qui doit trouver sa route, c'est-à-dire qui doit pouvoir vivre en paix avec ses fantômes, avec l'histoire. En fait, une fois qu'on connaît ça, c'est pas si difficile à faire. Et moi, j'ai mis en scène Thérèse et ses fantômes, c'est-à-dire qu'il y a Élise en vrai. On la voit jouer avec sa sœur, des scènes où elle est là en réalité. Et puis, il y a des moments où elle est dans sa chambre en train d'écrire et on voit sa sœur rentrer. Mais comme une instance, comme un regard.
Qui passe comme un spectre muet.
Oui, et qui lui fout la trouille, ou qu'elle aime, ou qu'elle a peur de perdre. Il y a mère aussi, que j'ai vraiment travaillé comme un...
Cette mère dont on apprend à un moment qu'elle s'appelle également Thérèse.
Et oui, et justement, c'est toute la répétition de l'histoire dans les corps. Et cette mère qui est morte et qui continue à hanter et à faire que tout le monde marche droit, parce que la langue et la grammaire maternelle est rentrée dans le corps des filles. Et moi, bien sûr que ça, théâtralement, c'est vraiment intéressant à faire. Il y a une actrice géniale, moi, je trouve, qui fait ça, qui est une très grande femme.
Alors, vous pouvez dire son nom, quand même.
Ah oui, bien sûr, Analia Perego. Ben, j'ai représenté ça au théâtre. Il y a le fantôme de mère, dès que Thérèse ouvre la fenêtre. Le fantôme de mère apparaît pour lui la faire fermer. Alors parfois, elle ouvre et elle ferme la fenêtre toute seule. Et parfois, on voit les bras de mère qui la prennent.
Mère
ça.
Thérèse, donc, puisque c'est son nom.
Thérèse, voilà, qui fait fermer les fenêtres à Thérèse. C'est tout ce jeu-là que j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en scène.
Ouais. Est-ce que vous avez fait un spectacle très mobile ou très hiératique? L'impression très, très subjective, en tout cas, que j'ai eue, et qui peut très bien ne pas être partagée par quelqu'un d'autre, c'est que c'était un texte assez immobile. Mais je ne sais pas du tout ce que vous en avez fait, parce que j'imagine que ça peut être très changé, ça. Mais moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Oui, écoutez, je crois que j'ai fait les deux. C'est-à-dire que comme il y a moyen de tout ça, parce qu'il y a une agitation extrême, une implosion, elle fait quand même un truc, elle va quand même insulter Christophe.
Alors, c'est le roi Christophe, le roi qui est donc Christophe. Cette figure tutélaire haïtienne.
Voilà. Oui. Et Dieu, dans la rue, devant tout le monde. Et en même temps, elle est enfermée chez elle et tout doucement, elle écrit. Mais j'ai travaillé les deux choses. C'est-à-dire que toute la pièce repose sur une Thérèse dans sa chambre, en train de faire une révolution de chambre.
Donc on a sur scène l'intérieur et l'extérieur.
Voilà.
Comme quelque chose qui pourrait se retourner d'une certaine façon.
Exactement.
Comme une peau qu'on met...
Exactement.
Ou un pull qu'on, qui est à l'endroit et qu'on met à l'envers.
Exactement. Mm. Et le décor même, la scène, on l'a travaillé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un mur où il y a cette fameuse porte, mais ce mur, est, à un moment, il se fend en deux, comme si c'était Thérèse elle-même.
Ben écoutez, merci beaucoup Pascal Henry d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que ce Thérèse en mille morceaux, on peut le voir au Théâtre de l'Est parisien à partir de demain jusqu'au 24 octobre et que nous le verrons également dans un certain nombre de villes françaises. Et pour terminer, si j'ai encore 30 secondes, je vais me permettre de lire extrait que je trouve parmi les plus beaux de ce livre et qui donne bien une image de ce que c'est que cette femme de Thérèse. Mais est-ce que je sais quel est mon sentiment réel ? Une femme qui n'a pas pu sauter à la corde jusqu'à 100, marcher seule dans la rue, répondre au salut d'un passant, parler sans s'inventer un double, penser son corps et sa parole sans se le cacher à elle-même, saura-t-elle jamais dire qui elle est ? Toute Thérèse m'est étrangère. Celle que mère m'a concoctée autant que celle qui m'envahit. Des deux, je ne suis que l'enjeu. Qui dira le jeu et la mise ? Ben, merci encore d'avoir été donc dans La danse des mots qui parlait de ce Thérèse en mille morceaux de Lionel Trouillot. La danse des mots étant une émission proposée par RFI et le Centre National de Documentation Pédagogique, Naja Daguerre, Sophie Mallet, Yvan Hamar.